أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. Bienvenue. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. C'est-à-dire, celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Il dit aussi: La yashba'u al-mu'minu min khayrin yasma'uh. حتى يكون منتهاه الجنة. C'est-à-dire, le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'à la fin en soit le paradis. Et on rappelle aussi l'importance de mettre la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu. C'est une condition pour avoir les récompenses. Donc aujourd'hui, nous parlerons, inshallah, d'un sujet très important sur les règles d'interprétation du Coran, exégèse correcte du Coran et du Hadith. On l'a rappelé dans les précédents cours plusieurs fois que le Coran et le Hadith, donc ils sont en arabe, et pour bien les comprendre, il ne suffit pas de lire les traductions qu'on trouve donc dans le marché, que ce soit dans les livres, les applications, sur Internet. C'est un grand danger. Les gens, tellement ils sont ignorants, ils ferment les yeux. Du moment qu'il y a un site qui dit traduction du Coran, une application, vraiment ils ferment les yeux, ils envoient, ils propagent, et ça, un très grave danger. Donc le jour dernier, il n'y a pas d'excuse de dire mais moi j'ai trouvé ça qui parle de l'islam, je l'ai suivi aveuglément. On a vu même dans le hadith que des gens, parmi les signes de la fin du monde, des gens vont prendre comme référence des ignorants. Vu qu'il n'y a pas de ça, il n'y aura presque plus de savants, comme de nos jours, les gens ils prennent comme référence des ignorants. Qui, interrogés, répondent sans science, provoquant leur égarement et l'égarement des gens qui les interrogent. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. C'est-à-dire, ici, ça nous montre qu'il y a des gens égarés dont les œuvres sont les plus vaines, c'est ceux qui pensent faire le bien, mais ils sont égarés. Ils pensent faire le bien, mais ils sont égarés. Donc, penser faire le bien tout seul ne suffit pas. Beaucoup de gens, donc, ils sont très rapides à partager sur WhatsApp, les réseaux sociaux, etc. N'importe quelle traduction qu'ils trouvent. Hadith, ceci, il te dit ça, c'est dans le Coran. Donc voilà vraiment le grave danger. Et comme il a dit le prophète, la religion, elle a commencé étrange, elle va redevenir étrange comme elle était. Donc les gens, ils s'étonnent de la vérité de nos jours. Tellement ils baignent dans l'ignorance. Quelqu'un qui est habitué à une chose mauvaise, il va il va s'étonner, il va pas comprendre rapidement ce qui est correct, parce qu'il s'est habitué au faux. Et on est dans cette époque. Donc il y a des règles très importantes, très faciles, la religion elle est facile, pour l'interprétation utilisée par les vrais savants sunnites de l'islam, comme on va voir. Donc il y a l'article, vous pouvez réviser par la suite. Donc au début j'ai mis le livre de Fakhreddin Razi. Vous pouvez télécharger la vidéo. Il explique le mot istawa, au sujet de Dieu, il explique clairement. En fait, il explique dans plus de 15 grandes pages que c'est impossible que istawa soit le sens de s'établir ou s'installer ou occuper un espace au sujet de Dieu, c'est impossible. Il donne des preuves du Coran selon la raison, etc. On va revenir sur certains points, Inch'Allah. La règle, on l'a répété plusieurs fois, Dieu a créé l'espace, le temps, il existe avant l'espace, le temps. Bien sûr, quelqu'un qui assimile Dieu à ses créatures n'a pas d'excuse. Même s'il ne connaît pas tous ces détails-là qu'on va dire, et ce qu'ils ont dit les savants, il n'a pas d'excuse. C'est les points sur lesquels il n'y a pas d'excuse. Ce n'est pas comme l'obligation des cinq prières, l'interdiction de l'alcool. S'il n'a jamais entendu du fait qu'il n'a pas fréquenté les musulmans, que c'est interdit, etc. Il ne devient pas mécréant s'il renie cela. Mais ces sujets-là, Dieu n'a pas de forme, n'a pas de quantité, il n'y a pas d'excuse. Parce que la raison, du moment que tu es pubère, saint d'esprit, que tu as la raison, il n'y a aucune excuse. Avoir suivi telle personne ou telle autre pour attribuer à Dieu l'espace, le temps, l'impuissance, l'incapacité, le changement. Car celui qui est ainsi, ben, c'est une créature, ce n'est pas Dieu. La raison confirme catégoriquement que le Créateur n'a pas de forme, n'a pas de quantité, il existe avant l'espace, le temps, il ne change pas, il sait tout, il n'a besoin de rien, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il parle sans langue ni lèvres, il est vivant sans cœur, ni âme, ni chair, il n'a besoin de rien. Ça, c'est confirmé catégoriquement selon la raison. Renier un de ces points-là, c'est un blasphème. Quoique la personne fût ignorante, c'est-à-dire même si elle est très très ignorante, il n'y a pas d'excuse. Donc ça, c'est des points qui permettent de bien comprendre ce sujet-là, et c'est une cause pour être préservé, pour ne pas s'égarer. Parce que de toutes les manières, on n'a pas d'excuse si on s'égare sur ce point-là. Il y en a, ils s'égarent. Bien sûr, celui qui attribue à Dieu le corps, la forme, la quantité, c'est pas un musulman. C'est la croyance des non-musulmans, d'ailleurs. C'est la preuve, facile et importante, qui montre que l'islam est l'unique religion valable. Car c'est la seule religion qui dit que Dieu n'est pas un corps. Toutes les autres religions, ils adorent un corps imaginaire ou un corps existant, le soleil, la lune, ou un corps imaginaire. Ils s'imaginent un vieillard ou une lumière qui habite le ciel, ils l'adorent. Ils adorent vaches, statues, etc. Ils adorent un corps. Donc l'islam est la seule religion. Donc c'est la preuve principale pour montrer que l'islam est la seule vraie religion. C'est la seule religion. Qu'ont enseigné tous les prophètes, la seule religion conforme à la raison. Donc c'est un sujet très important. Et la religion, on le rappelle, c'est par transmission. Ça s'apprend avec chaîne de transmission de gens de confiance. Donc on apprend pour remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous a accordés, le fait d'exister, de respirer. Donc on a des hasanettes pour apprendre, pour réviser et pour propager. Donc c'est pour cela qu'on fait cela. Donc on est gagnant. C'est plus que l'argent ou l'or. L'or et l'argent t'en profitent quelques années dans cette vie. T'en profites de façon relative, de manière relative. Si tu as beaucoup d'or, tu ne peux pas manger plus que ton ventre. Si tu as des châteaux, tu ne peux pas dormir, occuper l'espace plus que ton corps. Tu ne peux pas dormir sur tout le château. Etc. etc. Et t'as mal, si tu veux, comme on a dit, tu as besoin de dormir, etc. Tu tombes malade, il faut, tu as des besoins, etc. Alors que pour les choses de l'au-delà, la récompense, c'est la félicité qui n'a pas de fin. Donc c'est pour cela il faut avoir de l'ardeur à bien comprendre ce sujet et propager. On a beaucoup de hasanat. Donc c'est ça, justement, ce qu'on appelle le vrai, être au service de l'islam pour de vrai. C'est apprendre et propager. C'est pas ce que font les extrémistes qui vont faire n'importe quoi, tuer les musulmans à droite et à gauche. Et ces gens-là, principalement, qui contredisent sur ces fondements-là. Qu'on va voir. Ceux qui attribuent à Dieu la ressemblance aux créatures, ceux qui attribuent à Dieu la forme, la quantité. Dans certains de leurs livres, on voit qu'ils traduisent rien que la Fatiha et les attribuent à Dieu à la colère. Dieu n'est pas attribué d'humeur, de changement. Le changement, l'humeur, ça concerne les créatures. Donc, par exemple, dans la Fatiha, on ne dit pas la colère. On peut dire là, le châtiment de Dieu, ceux qui encourent le châtiment de Dieu, par exemple. Alors, le Coran déjà nous montre. Donc, on va voir là le verset dans Sourate Al-Imran. Donc, le Coran honoré comporte des ayats, versets, donc du Coran explicites, muhkamat, et des ayats non explicites, mutashabihat. Allah Ta'ala dit: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Donc ça nous résume la situation, ce verset. Donc, qui signifie Allah est celui qui a fait descendre sur toi le livre qui comporte des ayats. Ayats, en fait, le pluriel de ayats, explicites, qui sont la base du livre. Hunna umul kitab. C'est-à-dire, on ne peut pas les contredire. Et d'autres non explicites. Mais d'autres qui ne sont pas explicites. Donc, il nécessite une interprétation. Mais. Il dit, les autres, ils sont la base du livre. Il faut donc une explication, une interprétation conforme aux autres versets, aux versets explicites. Donc voilà la réponse à tous ces gens égarés qui interprètent mal les versets, qui donnent des contradictions. Quant à ceux, voilà, et il nous dit aussi, quant à ceux dont le cœur comporte un égarement, donc c'est ces gens-là. Ils vont s'attacher à ce qui n'est pas explicite. Pourquoi? C'est pour égarer les gens, en fait, pour égarer les gens, fitna. Et pour en donner une mauvaise interprétation. Donc ici, pour en donner une mauvaise interprétation afin d'égarer les gens, c'est ça que ça veut dire. Ici, oui, ça parle de la mauvaise interprétation. Parce que la bonne interprétation, elle est acceptée. Abdullah ibn Abbas, qui était un savant très connu dans l'interprétation du Coran, c'est le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Ben, une fois, il a préparé l'eau pour faire le wudu au prophète. Une fois, il dormait chez le prophète, il a préparé l'eau. Et le prophète, il a dit, qui a fait cela? Il a dit, c'est moi. En fait, il lui a fait un doigt très connu. Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Ta'wil. Oh Allah, enseigne-lui la sagesse et l'interprétation du livre. Et on l'appelait Turjuman al-Qur'an. Turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire la référence de l'interprétation du livre. C'était Abdullah ibn Abbas. Ta'wil, donc l'interprétation. Donc bien sûr, l'interprétation, elle doit correspondre à des règles. Donc les savants de l'islam, ils sont unanimes à dire l'interprétation n'est permise que quand il y a une preuve catégorique, selon la raison, ou une preuve confirmée selon les textes. On ne va pas jouer, interpréter tout aussi. Comme certains sectes, le Mu'tazila. Il y a des extrêmes. Le Mu'tazila, ils vont interpréter partout où, ce qui contredit leur croyance. Et les extrémistes, les Mushabbiha, eux, ils vont renier l'interprétation. Dans le fait, il la renie, mais dans la théorie, il renie l'interprétation, mais dans les faits, eux, ils interprètent quand cela les arrange. En fait, c'est arbitraire, en fait, sans aucun fondement. Et les deux groupes extrémistes, donc, que ce soit Mu'tazila ou Mushabbiha, c'est des gens arbitraires selon leur passion. Les sunnites, ce n'est pas comme ça, selon des règles. Selon des règles précises, on interprète pour ne pas contredire les versets explicites, parce qu'il dit Hunna Ummul Kitab. Muhkamat Hunna Ummul Kitab. Donc ils interprètent selon des règles religieuses de la langue arabe, parce que le Coran c'est en langue arabe. Donc vous voyez, donc ça c'est une science. Et c'est très facile, on voit bien que c'est clair, la voie sunnite elle est claire. C'est pas suivre des passions, mais suivre des règles. Donc les versets explicites sont les versets explicites, ayat muhkamat, sont des versets dont le sens visé est connu d'une manière claire. C'est-à-dire linguistiquement, elles ont un sens clair. Qu'ils n'hésitent pas, ils n'ont pas un sens second. Ils n'ont pas plusieurs sens, un seul sens, du point de vue de la langue arabe. C'est pour ça que c'est clair, c'est ça que ça veut dire. Comme laïsa ka mithlihi shay, ce qui signifie rien n'est tel que lui. Surat Ash-Shura, verset 11. C'est une négation dans l'absolu. C'est impossible. Le ressemblant, le semblable au sujet de Dieu. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Aussi, dans le verset, « وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ » Il n'a aucun équivalent. Il n'a pas d'équivalent. Il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal. Donc, il dit quoi ? Ce sont les bases du livre. Donc, on ne peut pas contredire ces versets pour interpréter d'autres versets. Et d'autres versets explicites qui sont connus, qui ont un sens connu, clair dans la langue. Et les versets non explicites, ayat mutashabihat, quant aux versets non explicites, c'est ce qui comporte plusieurs sens dans la langue. Donc dans la langue arabe ici. Et qui a besoin d'une interprétation convenable pour retenir le sens conforme à ce qui est explicite. Donc, une interprétation convenable, c'est qui l'a fait ? Ce n'est pas une recherche sur Google ou préparer un doctorat, un master en sciences islamiques. Non, pas du tout. C'est des vrais savants qui ont atteint le niveau. Donc, Il n'est donc permis à quiconque de faire l'exégèse du Coran selon son propre avis. On demande plutôt aux gens de science. On demande aux gens de science. Afin de ne pas tomber dans un mauvais sens et assimiler Allah à ses créatures. Pour qu'on ne tombe pas dans un mauvais sens et qui nous mène à assimiler Allah à ses créatures. Ainsi, il est un devoir d'interpréter ce qui est non explicite dans les textes d'une manière conforme aux textes qui sont explicites. Donc voilà la règle. Donc vous voyez, c'est quelque chose facile. Comme il a dit le prophète, je vous ai laissé deux choses. Donc, clair, le Coran et le Hadith. C'est-à-dire, quelque chose de facile ne se détourne de cela qu'un égaré. Le sens du Hadith. Il dit, taraktukum al-mahaddati al-bayda, laylouha kanahariha, la yaziru anha illa halik. C'est-à-dire, une voie claire. Donc son jour est comme sa nuit. Il a fait une métaphore. C'est-à-dire cette religion, elle est facile. Vous voyez, celui qui ne suit pas les passions, la religion, elle est facile. Mais celui qui suit ses passions, il s'égare. Donc, comme certains gens qui suivent aveuglément des gens. Ils sont passionnés par ces gens-là. Ils suivent plus les règles. Ils suivent un tel. Mais n'importe qui peut se tromper, sauf les prophètes. Comme il nous l'a dit le prophète, chacun en prend de sa parole en délai, sauf le prophète. Donc ainsi, il est un devoir d'interpréter ce qui est non explicite dans les textes d'une manière conforme aux textes qui sont explicites. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Al-Qur'an imma huddatun laka am 'alayk. Ce qui signifie le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Rapporté par Muslim. C'est-à-dire que si la personne interprète mal le Coran, cela sera contre elle. Donc même si elle récite le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de certains groupes, il a dit Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Ils sortent de la religion. Comme il a dit, la flèche sort de la cible. Ils récitent le Coran mais ils ne dépassent pas leur gorge. Le Coran est une preuve ou pour toi ou contre toi. Donc, ainsi, il n'est pas permis d'interpréter le Coran selon son propre avis, mais on demande aux gens de la connaissance, digne de confiance. Allah Ta'ala dit: Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Demandez aux gens de la connaissance si vous ne savez pas. Sourate An-Nahl. Donc par ailleurs, il faut savoir que le Coran a été révélé en langue arabe, comme on l'a dit, et il n'est pas permis de le traduire mot à mot, comme font certaines personnes ignorantes de la science de la religion. Ceux qui traduisent mot à mot tombent ainsi dans plusieurs contradictions. Or, dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. La manière correcte est de traduire l'interprétation correcte du verset. Donc on traduit l'interprétation, le sens de la ayah donné par les savants interprètes spécialistes de l'exégèse du Coran, tafsir. Comme le Bukhari, Abdullah ibn Abbas, Bukhari, il explique: Kullu shay'in halikun illa wajha. Kullu shay'in halikun illa wajha. lui il explique ici wajh, il dit ici ça veut dire mulkullah dans son sahih, un chapitre explication du Coran. Il dit toute chose s'anéantit sauf la souveraineté de Dieu. Il a expliqué wajh par souveraineté. Là, on peut traduire facilement. Quelqu'un ignorant, il vient à traduire mot à mot, il dit ah, wajh, premier sens, wajh, c'est visage. Donc il va attribuer à Dieu le visage. Alors que la langue arabe est riche. Mais l'arabe, c'est pas comme le français. Même le français, c'est riche. Quand on dit quelqu'un, il a la main mise sur le secteur. Quelqu'un qui ne comprend pas bien le français, il veut traduire en chinois ou en autre langue. Et il va dire main, et dire main, et il va comprendre main, organe. Alors que le sens ici, ça veut dire dominer ce secteur-là. Donc il y a pas mal de métaphores, ou de sens figurés, ou de figures de style qu'on trouve dans plusieurs langues. Mais certaines ont, ils sont spécifiques à certaines langues. En français, je te donne un coup de main. Si tu traduis en arabe mot à mot, il va comprendre que tu veux le frapper. Ça ne marchera pas. Donc pareil, il y a des expressions en arabe qui existent, qui sont employées dans le Coran. Le Coran emploie la rhétorique de la langue arabe, ou les règles de la rhétorique de la langue arabe, ou le hadith. Si tu traduis mot à mot, ben ça ne marchera pas. Si une simple expression de la langue française, ça ne peut pas marcher de la traduire mot à mot en arabe, que dire le Coran? Donc vous voyez, c'est chose facile, ces règles-là. Donc le prophète, il parlait à des gens qui maîtrisent l'arabe. Il ne parlait pas à des gens qui parlent. Des dialectes de maintenant. Il parlait à des compagnons qui maîtrisent la langue arabe. Donc ils comprenaient ce genre de choses. Donc pour bien comprendre, ne pas tomber dans le piège. Ah oui, j'ai une application traduction du Coran. Et c'est là grand danger. Ils suivent aveuglément. Même si c'est fait par un non-musulman. Et d'ailleurs, une des applications les plus téléchargées, donc c'est avéré, elle est faite même par un non-musulman. Celle qui est vraiment la plus téléchargée au nom de l'islam. Donc, c'est devenu chose facile de manipuler les gens maintenant. Ils n'ont plus de règles. Et suivre l'apparence. Comme il a dit, un grand compagnon, il a dit. Ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Donc la preuve, c'est les règles du Coran, du Hadith. C'est pas un tel, il est connu, il a plein de téléchargements, plein de j'aime, plein de vues. Donc, le prophète nous a dit, donc on rappelle, le prophète il a dit, mais la communauté de Moïse s'est divisée en 71 groupes, la communauté de Jésus s'est divisée en 72, et ma communauté va se diviser en 73 groupes. Tous en enfer sauf un. Donc vous voyez déjà, tellement les gens ils sont ignorants, ils rapportent même pas bien ce hadith. Le prophète il n'a pas dit, ma communauté va se diviser en 73 sectes. Donc ce sens-là, ça ne peut pas avoir lieu. Parce que le mot secte, ça parle de mauvais, mais il y en a un qui est bon. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé le mot groupe. Le mot groupe, ça admet bon ou mauvais. Donc il a dit 73 groupes, tous mauvais sauf un. Mais ça ne marche pas de dire 73 sectes. Tu ne peux plus faire d'exception. Parce que secte, ça y est, c'est mauvais. Mais groupe, tu peux faire exception parce que. Le mot groupe admet le bon et le mauvais. Donc il a dit 73 groupes, tous en enfer sauf un. C'est la majorité, il a dit, c'est les sunnites. Donc ces sectes-là, Mu'tazila, Rafida, qu'on appelle communément Shia, ils sont 20 groupes, Mu'tazila 20 groupes. Donc ils ont contredit Comment ils ont contredit? Ils ont interprété, la plupart, c'est interpréter des versets, des hadiths. Donc c'est difficile pour eux de renier des versets, mais ils les interprètent mal. Et souvent, ils renient des hadiths. Ils trouvent pour eux plus facile de renier des hadiths. Mais des versets, c'est difficile. Donc, ils interprètent mal les versets. Donc, c'est pour ça que c'est un point important de comprendre ces règles-là. Donc, il y a des règles. Les contredire, c'est pas accepté. Même si quelqu'un te ramène une tonne de livres, si ça contredit les règles, c'est réfuté. Je donne un exemple simple. Si quelqu'un te dit, oui, il y a un hadith qui dit que 2 plus 2 est égal à 5. T'as pas besoin de regarder ou de faire des recherches ou des études. Tu sais tout de suite que c'est faux. Parce que c'est une phrase qui contredit la raison. Et aucune chose dans la religion ne contredit la raison. Donc il faut revoir les premiers cours qu'on a fait. C'est une règle importante aussi. L'interprétation ne peut pas contredire la raison. L'explication du hadith, c'est impossible qu'elle contredise la raison. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas acceptée. Et il faut revoir les premiers cours. Donc réviser, c'est important. Et ceux qui n'ont pas vu, qui voient, la raison est un témoin de la religion. Allah Ta'ala dit, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc, ainsi, si quelqu'un dit des paroles, donc en français, qui comporte une assimilation de Dieu à ses créatures, en lui attribuant les organes, ou la localisation, ou l'établissement, ou le contact, ou le déplacement, ou la position assise ou debout, ou le changement d'humeur, ou la colère, ou les sentiments, ou tout ce qui est des attributs des créatures. On lui dit, ces paroles, c'est toi qui les as dites, ou tu les as lues dans certains livres qui prétendent traduire le Coran. Or, ces paroles, en français, sont l'œuvre d'un simple écrivain. Ils ne proviennent pas du Coran, qui est bien en langue arabe. Et ces paroles en français contredisent les versets explicites qui indiquent clairement que Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures. Et ceci nous indique clairement que ces paroles en français, qui comportent une assimilation de Dieu à ses créatures, sont catégoriquement rejetées. Donc voilà la réponse simple. Parce que les gens, ils te disent, oui, mais j'ai lu dans le Coran. Mais attends, tu me parles en français, tu me dis, j'ai lu dans le Coran. Mais le Coran, il dit, et un verset, il dit, bilisan arabi mubin, avec une langue arabe claire. Même les gens, pour poser des questions, ils savent même pas, tellement l'ignorance est propagée. Donc, une démarche, donc, qui serait, donc, qui montre une certaine réflexion, un certain recul, de dire, j'ai lu dans un livre, l'écrivain, il prétend que ça, c'est le sens d'un verset. C'est quoi le jugement? Donc là, c'est une démarche donc qui montre qu'on réfléchit. J'ai lu dans un livre, l'écrivain, il prétend que c'est le sens du hadith du prophète. Il a dit ça. Donc voilà, quelqu'un qui réfléchit. Mais les gens, malheureusement, ils sont endoctrinés beaucoup à ne plus réfléchir, à suivre aveuglément. C'est pas de dire, ouais, le prophète a dit. Et dire une phrase, on dirait quelqu'un, il vient de rencontrer le prophète à l'instant. Donc il faut prendre du recul, bien prendre son temps. Avoir un peu de sagesse, j'ai vu dans un livre une application, l'auteur, et il dit que c'est le sens de tel verset. Il dit que cette phrase-là, ceci, cela, ou tel auteur, il prétend que c'est le sens d'un hadith du prophète. Voilà quelqu'un qui réfléchit. Et des gens qui font des années d'études, ils sont pas capables de faire une réflexion pareille. Donc ça montre que l'intelligence, c'est pas le nombre d'années d'études. Donc, de plus, il n'est pas permis de dire que Dieu, donc un autre, donc une autre réplique en fait facile. De plus, il n'est pas permis de dire que Dieu a un fils pas comme nous. On va pas dire Dieu, il mange pas comme nous, il a un fils parce qu'il y a des gens, il se cache, il dit n'importe quoi et te dit pas comme nous. Ça marche pas. Parce que même ceux qui disent que Dieu a un fils, il te dit pas comme nous, mais Dieu les a déclarés mécréants quand même. Donc ça marche pas de dire Dieu il se repose ou il se fatigue pas comme nous. C'est un blasphème quand même. Donc du moment que c'est pas digne de Dieu, on dit ça marche pas de dire pas comme nous. Donc il n'est pas permis de dire que Dieu a un fils pas comme nous, ou un visage pas comme nous, ou une main pas comme nous, ou qu'il s'assoit ou c'est à lui pas comme nous, car tout ceci n'est pas valable du point de vue de la langue et de la religion, et ceci de la mécréance. Et bien sûr, celui qui a commis de la mécréance doit prononcer, donc délester la mécréance dans le cœur et prononcer les deux témoignages, qu'il n'est de Dieu, et que Mohammed est le messager de Dieu. Donc pour revenir à l'islam, bien évidemment, en ayant délaissé la mauvaise croyance dans le cœur. On dit à la personne qui prétend ces mauvaises paroles au sujet de Dieu, toi tu n'accepterais pas qu'on dise de toi, tu es stupide, mais pas comme les stupides. Pourquoi? Car le mot stupide n'admet qu'un seul sens du point de vue de la langue, qui est péjoratif. Eh ben, fils, colère, humeur, ça n'admet qu'un seul sens, qui est que pour les créatures. Donc on peut résumer aussi la chose, on dit qu'il y a des termes dans la langue qui sont valables que pour Dieu. Et il y a des termes qui sont que pour les créatures. Il y a des termes, on peut employer pour Dieu et pour les créatures, mais pas dans le même sens. On dit Dieu est vivant, on dit un tel est vivant. Ça, c'est valable, parce que quand on dit Dieu est vivant, son cœur, ni âme, ni chair. Donc c'est le même mot, mais pas le même sens. Mais il y a des termes, c'est valable que pour Dieu. On ne peut pas dire un tel Dieu, comme certains disent Dieu de ceci ou de cela. On ne peut pas appeler une créature Dieu. Dieu, c'est que pour Dieu. Donc, l'imam al-Shahrastani parle du fait de traduire. On va donner un exemple de plus de 800 ans. Ce qu'on vient de dire, ça a été déjà exposé plus de 800 ans. Pas avec la langue française, parce que ça n'existait pas. Donc, des gens qui, à cette époque-là, des Français musulmans, en tout cas, c'était pas propagé. Mais là, c'était quelle langue? C'était la langue perse. Parce qu'il y avait beaucoup de musulmans perses. Donc là, l'imam Shahrastani parle du fait de traduire les termes au sujet de Dieu dans une autre langue. Donc, Al-Milal wa Nihal, son livre. Donc, il est là. Il cite justement les différents groupes qui se réclament de l'islam dont on a parlé. Donc là, il y a son livre. Donc il réplique en fait à ces groupes-là. Donc dans son livre Al-Milal wa-Nihal, page 68 de cette édition, l'imam Shahrastani a dit: certains savants étaient prudents au point qu'ils ne traduisaient pas les mots yad, wajh, istiwa en farsi, persan, ainsi que pour tout ce qui est parvenu et qui est du même genre. S'ils avaient besoin d'une expression pour les mentionner, ils citaient mot pour mot, l'expression révélée en arabe. En effet, telle est la voie saine, cela ne constitue en rien de l'assimilation tashbih. Donc voilà, il parlait comment on peut garder le terme en arabe. On dit istawa selon ce qui est digne de Dieu. Le mot wajh selon ce qui est digne de Dieu. Ça marche là. Parce qu'on a gardé le mot en arabe. Mais on ne peut pas traduire et prétendre. Parce que quand on traduit, c'est qu'on a choisi déjà un sens. On ne peut pas traduire sans choisir de sens. Parce que le mot, il peut avoir plusieurs sens. Comment tu traduis sans choisir de sens? Traduire, c'est déjà fixer un sens. Et pour choisir un sens, il faut des règles. Il ne faut pas que ça contredit les autres versets, que ça... Donc, et que ça soit digne de Dieu, donc. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdel Karim al-Shahristani est décédé en 548 de l'Hégire, rahimahullah. C'est-à-dire il y a plus de 880 ans. Il était du madhhab école de jurisprudence de l'imam Shafi'i. Son livre Al-Milal wa Nihal traite des différentes religions et des différentes sectes qui se réclamant de l'islam. Donc vous voyez, on dit secte se réclamant de l'islam. On ne dit pas secte de l'islam. Ils se réclament de l'islam. Mais ils ne sont pas de l'islam. Ils ne suivent pas l'islam. Tels que les Mu'tazila, les Jabriya, les Khawarij, les Mushabbiha, ceux qui assimilent Dieu à ses créatures. Donc ici, il dit que certains savants ne s'aventuraient pas à traduire certains mots présents dans les versets non explicites, mutashabihat, tels que yad, wajh ou istawa. Donc istiwa, ainsi que les autres termes du même ordre. Et que ces savants se contentaient de citer mot pour mot le terme tel qu'il est mentionné dans le texte du Coran et du Hadith, c'est-à-dire en arabe. Donc, les savants d'ailleurs, même avant en arabe, il y en a, ils détaillaient pas, ils disent Istawa selon ce qui est digne de Dieu, c'est pas un établissement, contact, position, c'est impossible chez du Dieu, mais il reste général. Et certains, ils disaient istawa, ça veut dire dominer, préserver, maintenir en existence. Donc il y a les deux voies principales, ou interpréter en détail, ou rester général. Mais dans les deux cas, ils disent c'est impossible au sujet de Dieu, la forme, la quantité, la localisation, le changement, le déplacement, tout ce qui est des attributs des créatures. Voilà le résumé de la manière d'interpréter des grands savants sunnites. Donc cela a également été mentionné par l'imam Abu Hanifa dans son livre Al-Fiqh al-Akbar, dans lequel il dit qu'on ne peut pas traduire le terme yad en persan, car le mot persan ne donne pas le sens de ne donne que le sens de l'organe. Voilà, on peut l'appliquer en français. Donc vous voyez, il y a plus de presque 900 ans, ben, il faisait cela. Ces règles, il appliquait les règles. Donc ceux qui sont précautionneux concernant leur religion suivent également cette règle pour le français. Ou bien ils traduisent le sens selon l'interprétation correcte donnée par les savants de l'islam. Ou selon, ils gardent le terme en arabe. Malheureusement, dans de nombreuses prétendues traductions du Coran et des recueils de hadith, les auteurs n'ont pas fait preuve de prudence et se sont aventurés à traduire ces termes selon le sens apparent et non selon le sens du verset et du hadith. Par cela, ils ont induit en erreur beaucoup de personnes ignorantes de la richesse de la langue arabe, au point qu'en lisant ces ouvrages, certains se sont mis à croire que Allah aurait des mains, un pied, un visage, des yeux qui seraient concernés par l'étonnement, l'orgueil, le rire, la colère, l'oubli, la position assise, l'établissement, la descente, la venue, la direction, l'endroit et de nombreuses autres caractéristiques humaines. Ainsi, ces gens-là pensent avoir lu le Coran et les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils pensent être musulmans alors qu'ils ont une croyance très éloignée de l'islam. Comme on l'a dit au début, il y en a, ils pensent qu'ils sont sur, font le bien, mais ils sont égarés dans Sourate Al-Mulk, le sens du verset. Alors soyons prudents, car les livres que l'on trouve sur le marché français sont dans de nombreux cas parsemés non seulement d'expressions qui nuisent à la compréhension, mais aussi et surtout d'expressions qui nuisent à la vraie croyance. Donc voilà, donc parole de savant. Donc ça, c'est un travail de recherche fait par beaucoup de gens, alhamdoulilah, des frères et sœurs. Donc il y a pas mal des exemples de ce genre avec des scans, etc. sur islamsunnite.net. Donc géré par des gens de confiance. Et sunnisme.wordpress aussi. Donc il y a donc une sœur docteur qui a fait un grand travail aussi donc une partie de ce qu'on a cité. Donc voilà ces règles-là faites donc expliquées par les savants dans son livre Hadyu Sari Muqaddimat Fath al-Bari, page 208 de cette édition. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani a dit: ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافا إلى الله تعالى واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات. Ce qui signifie, il est mentionné dans le Coran et dans le Hadith, al-yad attribué à Allah Ta'ala et Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ont été unanimes qui n'est pas visé au sujet de Allah par al-yad, l'organe, c'est-à-dire la main. Qui fait partie des choses qui sont concernées par entrée en existence. Donc vous voyez, Ibn Hajar, on l'appelle l'émir des croyants dans le hadith. L'émir dans le hadith, c'est le grand savant, il a un livre très connu, le commentaire de Al-Bukhari, il s'appelle Fath al-Bari. Il dit, il est mentionné dans le Coran et le hadith, Al-Yad attribué à Allah Ta'ala et Ahl-Sunnah wal-Jama'a ont été unanimes. Le sunna, c'est les gens qui suivent la voie du prophète. Al jamaa, c'est le qui représente l'ensemble des musulmans. Ont été unanimes qu'il n'est pas visé au sujet de Allah par al-yad, l'organe, c'est-à-dire la main, qui fait partie des choses qui sont concernées par l'entrée en existence. L'organe, c'est pour les créatures. Les gens mouchabbeh, ils te disent, oui, Dieu, il a une main pas comme nous. N'est-ce pas que le singe, il a une main pas comme nous? Donc, vous voyez la faiblesse, la stupidité, la faiblesse de compréhension. Il te dit, c'est-à-dire qu'on compare Dieu au singe. Les gens nous l'ont dit directement. Ils te disent, n'est-ce pas, le singe, il a une main pas comme nous. Donc, pour eux, Dieu, c'est une forme bizarre, spéciale, un peu comme dans la mythologie grecque ou dans les dessins animés de certains occidentaux. Donc vous voyez donc le danger de ne pas comprendre et de tomber, parce que c'est dans le marché, c'est donc n'importe qui, même un non-musulman, maintenant même à Carrefour, moi j'ai vu Carrefour, ils vendent traduction, soi-disant du hadith et du Coran. Virgin, La Fnac, tu trouves et tu vois des gens occidentaux. Et les gens ils suivent. C'est l'ignorance. C'est pour cela que le prophète والسلام, a dit, ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc celui pour qui Allah a voulu le bien lui facilite une cause, quelqu'un qui lui montre la voie pour apprendre, de gens de confiance. Donc exemple, donc on a vu des exemples là, mais d'autres exemples de versets non explicites avec leur interprétation correcte. À cette occasion, nous allons citer certains versets non explicites en donnant leur interprétation conforme aux versets explicites. Allah Ta'ala dit, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Ce qui signifie les bonnes paroles montent vers l'endroit honoré par Allah et les bonnes œuvres y sont élevées. Ilayhi ici, c'est l'endroit honoré par Dieu. Il ne veut pas dire que Dieu habite le ciel. Dieu a créé le ciel, il existe avant le ciel. Donc une réplique simple à ces gens-là. Il y a ces sectes-là où c'est les gens du livre donc, qui disent que Dieu habite le ciel. C'est une simple réplique. Il suffit de leur dire qui a créé le ciel, qui a créé le trône. Là, ils s'arrêtent. Ça y est, ils ont compris que c'est. Il n'y a plus déçu à leur mauvaise croyance. Quand ils disent c'est Dieu qui a créé le ciel, Dieu existe donc avant le ciel. Car c'est lui qui l'a créé. Il existe avant lui. Et avant le ciel, Dieu existe sans le ciel. Avant le trône, Dieu existe sans le trône. Et avant donc l'endroit, Dieu existe sans endroit. C'est lui qui a créé l'espace, le temps. Donc les bonnes paroles montent vers l'endroit honoré par Allah. Donc quand on lève les mains vers le ciel, parce que c'est un endroit honoré. De là descendent les miséricordes, les anges habitent le ciel. Et on se dirige, comme il a dit, Nawawi. Nawawi, il disait dans les commentaires de Sahih Muslim, que quand on se dirige vers la Kaaba, c'est une direction. Et quand on se dirige vers le sol, quand on se prosterne, c'est une direction. Et le ciel, c'est une direction. Dieu n'habite pas le sol, ni la Kaaba, ni le ciel. C'est juste des directions. Pour les invocations, pour la prosternation, et la Kaaba pour la prière. Donc Dieu a créé l'espace et le temps. Il existe avant l'espace et le temps. Donc Allah Ta'ala dit « Laysa kamithli shay » c'est-à-dire rien n'est tel que lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, ce qui signifie Allah domine le trône par sa puissance et le préserve. Donc comme j'ai mis la vidéo au début, Fakhruddin al-Razi, comme j'ai dit, plus de 15 pages, il explique que c'est impossible que istawa soit s'asseoir ou s'établir, c'est impossible. Il cite plein de preuves durant 15 pages et à la fin il dit que c'est impossible au sujet de Dieu l'espace, le temps. Et istawa, c'est le sens de dominer en langue arabe. Donc on prend le sens qui correspond au contexte. Et ici, ça parle de Dieu. Ça ne peut pas avoir un sens qui n'est pas digne de Dieu. Quand on dit en français, l'animal est dressé, la table est dressée. Quand tu dis la table est dressée, c'est un sens. Tu ne peux pas donner le même sens quand tu dis l'animal est dressé. Pourtant, c'est exactement le même mot. Même au sujet des créatures, il y a des sens que tu ne peux pas donner selon le contexte. Que dire au sujet du créateur des créatures? Donc vous voyez, ces gens-là, égarés, ils suivent les passions. Même les règles de la linguistique, de la rhétorique, ils ne suivent même pas. Tellement les passions aveugles. Comme disent les savants, les passions aveugles. Et Allah dit dans le Coran, « وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Ne suis pas les passions, elles vont t'égarer du chemin agréé par Dieu. Donc, le Bayhaqi dit ici, Istawa, ça veut dire dominer. Pourquoi Dieu cite le trône? Parce que le trône, c'est le plus grand corps, pour nous montrer qu'à plus forte raison, il domine les créatures plus petites que le trône. Il a dit, c'est dans la rhétorique. Citer le plus, pour faire comprendre ce qui est le moins. Si Dieu domine le plus grand corps, à plus forte raison, il domine ce qui est moindre que le trône, dans le volume. Donc il a dit, donc ça c'est le Bayhaqi, elle explique dans l'Asma wa Sifat, et d'autres aussi. As-Suyuti dans l'Itqan fi Ulum al-Qur'an, il dit, il cite des savants, il cite même l'épouse du prophète, Umm Salama, l'imam Malik, tous ils disent Istawa, on ne dit pas comment. Le comment au sujet de Dieu est impossible. Et des gens, ils emploient comment au sujet de Dieu, on n'emploie pas comment. Comment c'est que pour les créatures? Comment est l'ange de la mort? Comment est l'âme? Comment est le paradis? Comment est l'enfer? Comment sont les scorpions de l'enfer? Comment est la nourriture des gens de l'enfer? Ça marche. Comment, c'est quoi? C'est la forme, la quantité, l'aspect. Mais Dieu n'est pas concerné par ça. Il ne cerne pas sa réalité. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu est différent. Les savants disent Allah bila kayf wala makan wala zaman. Dieu existe sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. Donc voilà la croyance des prophètes, la croyance des anges, la croyance de vérité, la croyance dans tous les livres révélés, la croyance de tous les prophètes, la croyance des gens du paradis. Alors, donc on verra comment un grand savant il répliquait à ces gens-là. Parmi l'égarement de ces gens-là qui assiment Dieu à ces créatures, il se base sur la Pharaon. Pharaon, il dit à Haman, construis-moi une tour, je veux monter dans le ciel et voir le Dieu de Moussa. Eux, ils te disent, vous voyez, Pharaon. Et alors, Ibn al-Jawzi, il y a un grand savant musulman, dans son livre, il leur réplique, il dit, mais, parce que dans la suite du verset, Dieu nous dit, et que c'est-à-dire il a été embelli à Pharaon son mauvais agissement et il est égaré du chemin. Il dit mais Dieu nous dit que celui qui croit comme Pharaon que Dieu est dans le ciel il est égaré du chemin. Moussa n'a jamais dit à Pharaon Dieu habite dans le ciel. Il a dit votre Seigneur, le Seigneur de vos ancêtres, le Créateur de toutes choses, le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Toujours lui répond comme ça. Donc Fakhreddin Razi, il dit, ben, regardez, donc la croyance, il dit quoi, Fakhreddin Razi? Donc on verra cette parole magnifique. Il dit, ça montre que la croyance de Moussa et ses frères prophètes, que Dieu, il est sans endroit. Et la croyance, il a dit, de Pharaon et ses frères mécréants, c'est que Dieu est dans un endroit. Donc voilà, c'est la croyance de Pharaon. Et ils suivent Pharaon, en fait. Donc, comme on l'a dit, le trône étant le plus grand de tous les corps, si Allah domine le trône, il domine à plus forte raison tout le reste. Donc il est interdit d'interpréter un verset non explicite dans un sens. Donc il est interdit d'interpréter un verset non explicite dans un sens qui ne convient pas d'être attribué à Allah Azzawajal. Ainsi, il n'est pas permis de dire que istawa signifie s'est assis ou établi, comme on mal traduit certains gens égarés, car ceci impliquerait une assimilation de Dieu à ses créatures. En effet, celui qui est assis ou installé est limité. Et a donc besoin de qui lui a donné cette limite. Et celui qui a besoin n'est pas Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Donc celui qui attribue à Dieu l'établissement, la position assise, a commis de la mécréance. Il doit délaisser cette croyance et revenir à l'islam par les deux témoignages. Donc l'imam Ali ibn Abi Talib a dit. إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Ce qui signifie, certes, Allah a créé le trône comme une manifestation de sa toute-puissance et ne l'a pas pris comme endroit pour lui-même. Donc, c'est rapporté par Abu Mansour al-Baghdadi. Et dans la même page, il rapporte que l'imam Ali l'a dit. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليك. Dieu existe de toute éternité, il n'y a pas d'endroit de toute éternité, et maintenant il est tel qu'il est, il ne change pas, il est sans endroit. C'est un livre un peu comme le Milal wa-Nihal, c'est un livre de Abu Mansour al-Baghdadi, et dans lequel il cite les différentes sectes, et il cite à la fin le groupe sauvé, les sunnites, il dit, ils sont unanimes que Dieu est sans endroit. Il ne dépend pas du temps. Il cite ici cette parole-là de l'imam Ali, et celle qu'on vient de citer, que Dieu existe, l'endroit, seul Dieu existe de toute éternité, l'endroit n'est pas de toute éternité. L'endroit, il est créé, et après, donc avant l'endroit, il existe sans endroit, et après qu'il a créé l'endroit, il ne change pas, il existe toujours sans endroit. Donc on verra donc d'autres des explications très intéressantes, ça va nous permettre de réviser d'autres exemples, et ça montre la richesse, ça aide à comprendre la langue arabe aussi. On finit avec cela. Donc il faut savoir aussi que Allah a créé les âmes et les corps, et qu'il n'est ni une âme ni un corps. Donc Dieu a créé les corps palpables comme les pierres, les plantes, les humains, et les corps impalpables comme l'air, l'obscurité, la lumière. Et les caractéristiques, le goût, l'odeur, la pensée, le mouvement, le sentiment, le changement, tout est créé par Dieu, chaque instant, chaque perception. Écrit par Dieu, Dieu ne ressemble pas à cela, il n'est pas attribué de ses caractéristiques des corps. Donc on ne dit pas que Dieu c'est une âme, un esprit, comme disent les mécréants. Dieu est le créateur des âmes et des esprits, de tout, des corps et de leurs caractéristiques. Donc que veut dire le verset Fanafakhna fihi min ruhina? Ce verset signifie: nous avons fait insuffler dans son corps l'âme que nous avons créée, honorée. Ce verset signifie que Allah a ordonné à l'ange Djibril d'insuffler dans le corps de Maryam l'âme de Isa, qui est une âme honorée, comme on l'a vu. Dans le cours précédent, on parlait de la naissance de Isa. Dieu a ordonné à Djibril d'insuffler. C'était insufflé, il est rentré par l'ouverture de son col de Mariam. Les âmes sont en effet de deux sortes. Il y a des âmes honorées et de mauvaises âmes, des âmes malignes. Les âmes des prophètes font partie de la première sorte, les bonnes âmes. Quant au fait que Allah s'attribue les âmes de Isa et de Adam, exprimées par le pronom possessif na, dans mirruhina, donc c'est un pronom rattaché, possessif. Ceci exprime la marque d'honneur, idhafatu tashrif. Comme dans Naqatallahi, la chamelle honorée par Dieu. Antahira baytiya, lit-ta'ifin. C'est-à-dire baytiya, c'est-à-dire la maison honorée par Dieu. Donc la maison honorée par Dieu. Donc on verra d'autres détails, mais dans tous les cas on l'a dit, attribuer à Dieu la forme, la quantité, l'espace, le temps, donc c'est un blasphème qui annule l'islam de la personne. Donc faire attention aux mauvaises traductions. Donc la personne, la religion, c'est par étapes. On a vu les compagnons, ils ont dit: Kunna wa nahnu fityan hazawira ma'a an-nabi fata'allamna al-imana qabla al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Ils ont appris la foi avant le Coran, ensuite ils ont appris le Coran, cela les a augmentés en foi. Donc il faut apprendre les règles de la croyance d'abord, et le Coran c'est à haut niveau, apprendre à réciter, l'interprétation. Petit à petit, on apprend tel verset et tel autre. Donc, on ne brûle pas les étapes, sinon la personne peut s'égarer. Donc, en résumé, on a dit il y a des versets explicites et des versets non explicites. Et des versets explicites, on a vu, sont la base du livre. Donc, sont la base du livre. Et les versets non explicites peuvent admettre linguistiquement plusieurs sens, mais ne sont retenus que les sens qui sont dignes de Dieu, qui ne contredisent pas les autres versets. Et les savants, où ils vont donner de manière générale, ils vont dire Ils vont garder le mot dans le verset en arabe, ils vont dire selon ce qui est digne de Dieu. Mais ce n'est pas une forme, une quantité, une localisation. Et donc certains, ils vont préciser un sens selon les qui existent dans la langue. Comme Istawa, ils ont dit dominer, préserver, maintenir en existence. Mais dans tous les cas, ils disent la forme, la quantité, la localisation, le changement, ils sont impossibles au sujet de Dieu. Donc voilà, révisez bien. Donc il y a l'article, donc interprétation, exégèse correcte du Coran et du Hadith. Donc révisez bien pour bien comprendre. On a des hasanats, comme on a dit, on révise, on propage à d'autres. Allah Ta'ala dit anfusakum wa ahlikum nar, c'est-à-dire préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera d'homme et de pierre. Comment se préserver? C'est en apprenant et en propageant. En apprenant et en propageant. Donc c'est comme ça qu'on se préserve soi-même et sa famille du feu de l'enfer. On apprend, on maîtrise, on propage. Donc j'espère que c'est clair. Donc révisez bien. S'il y a une question, vous pouvez envoyer. Donc sur WhatsApp ou sur le site. Donc il y a le mail et vous aurez le WhatsApp. Voilà. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم.